l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Notre émission d'aujourd'hui est consacrée à un sujet que nous avons déjà abordé dans notre dernière émission, le procès Eichmann. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Alors, tu voulais revenir plus particulièrement sur ce sujet et plus profondément ?
Oui, je crois que c'est important. Je crois que l'histoire a besoin de témoins, l'histoire a besoin de faits, l'histoire a besoin aussi d'interprétations, d'explications. Et là, je pense qu'il faut faire une émission de mise au point. Parce que le procès Eichmann, c'était en 1961. Il s'est donc passé pas mal d'années. Et on en retient souvent que des éléments partiels. Et bien évidemment, il y a aujourd'hui un certain nombre de documents qui ont été retrouvés par la suite. Et notamment, il y a une biographie de Eichmann qui a été publiée, également dans une édition de poche d'ailleurs, de David Cesarini aux éditions Talendier. Excellente biographie, très détaillée, bien évidemment. Et puis, il y a les différentes interprétations qui ont été données à travers des films, des écrits, comme ceux, par exemple, de Hannah Arendt, bien connus, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu bien d'autres textes qui ont été écrits là-dessus. Et puis, même des pièces de théâtre, une pièce de théâtre qui a été jouée en Israël par de Hillel Mittelpunkt. Donc, le procès Eichmann est quelque chose qui existe encore en tant que, je dirais, en tant qu'objet d'analyse et d'interprétation historique et qui pose un certain nombre de questions aujourd'hui. Et tu vas me dire pourquoi aujourd'hui ? Eh bien, justement, parce qu'aujourd'hui, dans la campagne à la fois de boycott et de haine d'Israël, on est en train, bien évidemment, de retourner la Shoah contre Israël.
De quelle manière ?
Eh bien, on accuse Israël de crimes contre l'humanité. On accuse Israël, au fond, des mêmes chefs d'accusation qu'Israël accusait parfois des criminels nazis ou le nazisme, en montrant qu'au fond, il se passe en Israël des choses qui sont de l'ordre, je dirais, de brutalité, de violence, de guerre, et bien évidemment de crimes de guerre. On l'a entendu à de nombreuses reprises contre Israël. Et donc, on retourne finalement cette thèse du procès Eichmann, qui a été au départ, je dirais, propagée surtout par Hannah Arendt, sur la banalité du mal, au fond, sur la possibilité de n'importe quelle personne de devenir, au fond, un bourreau. D'ailleurs, le sous-titre, par exemple, de la biographie que j'ai citée d'Eichmann, de David Cesarini, c'est « Comment un homme ordinaire devient un meurtrier de masse ».
Et pour toi, et donc, ça n'a rien à voir avec un homme ordinaire
non,
qui se transforme en monstre.
Non, encore une fois, bien entendu, on ne va pas non plus transformer Eichmann en un génie de l'humanité. Il ne faut pas non plus considérer que c'est un homme extraordinaire. Mais le procès Eichmann, ça n'est pas ça. Le procès Eichmann, dans les années 60, il avait d'autres buts. Il s'est déroulé d'une certaine façon. Il a été, je dirais, peut-être mis en scène par l'État d'Israël pour d'autres raisons. Je dirais des raisons à la fois pédagogiques et aussi, toi qui fais du théâtre, cathartiques pour la société israélienne. Il faut bien comprendre qu'à un moment ou un autre, et c'est le contexte que je voudrais rappeler, puisque nous faisons une émission, disons, historique, mais aussi une émission d'explication, de réflexion, de pensée sur ce qu'a été l'histoire d'Israël. Le procès Eichmann, c'est un moment clé dans l'histoire d'Israël moderne. C'est un moment qui a permis de libérer une parole qui était malgré tout un peu étouffée. Et bien sûr qu'il y avait de nombreux survivants de la Shoah, ben, bien sûr, pas si nombreux que ça, mais en Israël, mais ils ne parlaient pas. Ils ne pouvaient pas parler, non pas parce qu'ils ne voulaient pas parler, peut-être certains ne voulaient pas parler, mais surtout parce qu'ils avaient l'impression de ne pas être entendus. Qu'on ne voulait pas les entendre.
C'est ce que vous nous avez expliqué, c'est qu'on voulait
tourner la page. Voilà. Tourner la page. Alors, Israël avait toujours considéré la Shoah comme, un des poids à porter, un des fardeaux à porter pour ce nouvel État. Il y avait eu la création de Yad Vashem au début des années 50 et surtout de la loi instaurant le Yom HaShoah Ve'agvura. Mm-hmm. Et c'était important dans, l'éthos sioniste de dire que ce Yom HaShoah était aussi Yom HaShoah Ve'agvura, c'est-à-dire la journée de la Shoah, mais aussi de l'héroïsme. Et donc, ceux qui parlaient de la Shoah, c'était les héros, ceux qui avaient participé aux groupes de résistance, ceux qui étaient les partisans, ceux qui s'étaient battus, ceux qui avaient résisté, ceux qui avaient été exterminés et ceux qui avaient été, des déportés, ce qu'on a appelé des gens, qui avaient perdu toute forme d'humanité, ceux-là n'avaient pas d'histoire à raconter, ils n'avaient pas de récit héroïque à raconter. Et puis, quand on construisait une nouvelle société avec un autre éthos, dans une situation aussi de guerre avec des ennemis, ce discours-là, discours de victime quelque part, n'était pas audible en Israël. Et donc le procès Eichmann a été l'occasion de changer finalement cette vision du monde qui existait ou qui était, disons, dominante en Israël. Alors c'est vrai que pendant 10 ans ou un peu plus, l'État d'Israël n'a pas trop parlé de la Shoah. Et il se trouve qu'en 1960, le Mossad arrive à retrouver la trace d'Eichmann, mais aussi d'autres criminels nazis. On a cru à un moment pouvoir également capturer Mengele, qui était le fameux docteur d'Auschwitz. Et à un moment, on avait envisagé de les juger d'ailleurs tous les deux. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'Israël n'a pas recherché et poursuivi des nazis. On le sait, dans les années 50, le Mossad a non seulement poursuivi ces nazis, mais en a exécuté certains dans des opérations qui se déroulaient, parfois en Allemagne, des opérations d'un petit groupe qu'on a appelé par la suite les Vengeurs, et qui allaient liquider tout simplement ces anciens criminels nazis.
Pourquoi les liquider et non pas les ramener en Israël pour les juger?
Alors,
aussi,
encore une fois, c'était vraiment toute la question, parce qu'on pensait que ça ne valait même pas le coup d'un procès. Donc il y avait ce petit groupe qui
était... C'était avant ou après le
avant
procès Eichmann?
D'accord. Avant le procès Eichmann. Le procès Eichmann, ça a été un changement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, parce que c'est ce contexte qu'il faut comprendre. Il y a eu, après la guerre, le procès Nuremberg. Le procès Nuremberg était un procès qui a, été le procès du nazisme, d'une façon générale. On a jugé et ensuite exécuté, pendu, condamné un certain nombre de dirigeants de tout l'establishment nazi. Mais le procès Nuremberg n'a en aucun cas évoqué, bien sûr que c'était dans le contexte, dans le fond, dans la toile de fond, l'extermination des Juifs, la Shoah. Donc, il n'y a eu aucun procès. Même le procès, par exemple, des dirigeants, des chefs d'Auschwitz, n'a abouti pratiquement presque aucune condamnation, ou des condamnations très légères. Et donc, après le procès Nuremberg, finalement, il y a eu très peu de procès.
Ah, tu veux dire que...
En Allemagne, je parle.
D'accord. Tu veux dire que le procès de Nuremberg n'a pas abouti à des vraies condamnations?
Si, le procès du Nuremberg a abouti à des condamnations, mais après, il y a eu un certain nombre de petits procès.
D'accord, qui, eux,
Souvent abouti à des condamnations extrêmement légères.
Pourquoi ?
Eh bien, parce qu'il fallait réunir des témoignages, parce que ça se passait souvent en Allemagne, et qu'une partie de ces gens-là étaient soit dans la Wehrmacht, soit ils ne pouvaient pas être jugés, soit on n'a pas trouvé tous les éléments. Et puis souvent, ils étaient condamnés, mais à des peines relativement légères. À aucun moment, il n'y a eu de procès qui mettait sur la sellette la question de l'extermination des Juifs, et uniquement cette question-là.
D'accord.
Ce crime contre l'humanité, encore une fois, la notion même de crime contre l'humanité a été forgée après la guerre, justement, pour ce type de crime, au moment du procès en Nuremberg, mais ça a été appliqué sur, l'ensemble de l'œuvre des nazis, mais pas spécifiquement sur la Shoah. Lorsque on met la main sur Eichmann, alors la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est Israël qui doit le juger. de quel droit ? Et ça a été la question, d'ailleurs. Il y a des gens, même au sein du peuple juif, par exemple, on a parlé de Martin Buber dans une émission précédente, ou des gens comme Nahum Goldman, qui était le président du Congrès juif mondial, qui estimait que ce n'était pas à Israël, mais qui devait juste que Eichmann devait être jugé par une cour internationale. Par la suite, on a compris d'autres pays. Prenons l'exemple en France de Barbie, on a compris pourquoi c'était pourquoi la France devait juger Barbie, parce que c'était là où il avait commis les crimes. Donc on voulait juger Eichmann, non pas seulement en tant que SS, mais en tant que responsable de la mise en œuvre de quelque chose qui avait été décidé par l'Allemagne nazie et dont il était le maître d'œuvre, ou un des principaux maîtres d'œuvre vivants.
Est-ce que tu peux nous rappeler quel a été justement son rôle à Eichmann dans le nazisme ?
Alors, on va y revenir, parce que je voudrais revenir sur la personnalité d'Eichmann pour justement peut-être déconstruire un peu ce mythe qui a été bâti par Hannah Arendt. J'y reviendrai. Pourquoi Hannah Arendt a essayé de bâtir ce mythe d'un Eichmann à la limite clownesque, quoi, quelque chose d'un personnage ridicule, stupide, sans aucune consistance. Et on se dit, mais comment quelqu'un qui est aussi, comment dire, aussi bête et aussi transparent, je dirais, peut avoir été à la tête d'une entreprise industrielle d'extermination, de génocide d'un peuple et de millions de gens. Donc c'est toute la question. Cela dit, je pense que Eichmann n'est pas tout à fait, un être banal. C'est un criminel de guerre, c'est un haut fonctionnaire du Troisième Reich qui a monté, je dirais, tous les échelons, qui a été responsable de ce qu'on a appelé les affaires juives, qui s'est intéressé lui-même aux affaires juives. C'est quelqu'un qui connaissait, certains disent qu'il connaissait le yiddish et qu'il avait appris un peu d'hébreu, mais en tout cas, par exemple, il avait lu, c'est ce qu'il a dit dans ce qu'il a écrit, parce qu'il a laissé des pages de journal, qu'il avait lu, par exemple, Herzl, l'État juif. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé comme ça à ce poste tout à fait par hasard, uniquement administratif, quoi. Il était membre de la SS dès le début, il y est entré assez tôt, et il a tout, dès le début, dès l'âge de 26 ans, il faisait partie du parti nazi. Ce n'était pas quelqu'un c'est pas un Allemand ordinaire, comme on a dit, qui s'est retrouvé mobilisé dans l'armée et tout d'un coup à des fonctions de direction. Il était très proche d'un des très grands, responsables du l'establishment nazi, qui s'appelait Kaltenbrunner, donc qui était dans la hiérarchie, dans les 5-6 premiers responsables du régime nazi. Dès 1932, il était déjà membre de la SS, c'est-à-dire avant même l'arrivée des nazis au pouvoir. Cela dit, il a toujours été lié à une vision antisémite. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui serait arrivé comme ça par hasard à se poser la question, mais il a toujours revendiqué des opinions antisémites. Lui, dans sa défense, il a essayé de minimiser en disant « je ne faisais qu'exécuter des ordres ».
Bien sûr.
Et ça a été sa défense sur toute la ligne de défense de Eichmann, c'était « je n'ai fait qu'exécuter des ordres ». Alors, encore une fois, il était l'adjoint de quelqu'un qui a été assassiné par la résistance tchèque, qui était le responsable des services de renseignement et de sécurité, c'est-à-dire en fond du contre-espionnage allemand, qui s'appelait Reinhard Heydrich. C'était donc le numéro 2 de ce service. Ce n'était pas donc quelqu'un, encore une fois, c'est pas un sous-fifre. C'est ça que je veux. Je pense que c'était important de dire. On a l'impression aujourd'hui qu'on a jugé une espèce de sous-fifre. Non, ça n'était pas un sous-fifre. Eichmann était quelqu'un qui avait de hautes responsabilités dans le système et qui, au moment, par exemple en 1933, il est déjà dans les administrateurs du camp de concentration, du premier camp de concentration créé en Allemagne, qui est celui de Dachau. Donc, l'univers concentrationnaire, c'est quelque chose qu'il a connu depuis 1933 et il a réfléchi justement sur comment rendre ce système plus efficace, de son point de vue, et beaucoup plus cruel.
Productif.
Voilà.
Bon, et il montre, je dirais, il est monté dans la hiérarchie de 1933 jusqu'en 1942. Il est monté dans la hiérarchie de façon très régulière, avec des décorations, avec des responsabilités au sein d'un département qui était justement le département chargé des affaires juives au sein justement de ce service de renseignement. Il s'est marié, lui, en 1935. Il a eu des enfants. Et donc, il a étudié le problème juif dès le début pour réfléchir à la solution finale. Cette solution finale, elle a été décidée, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais enfin, elle a été décidée à la fin 1941. Et donc, à partir de 1942, elle a été mise en application. Et il en était le responsable direct.
D'accord.
Alors, encore une fois, il avait quand même un grade au sein de cette administration. Et sans entrer dans tout le détail, il a été mêlé, je dirais, à toute la fabrication du système, on pourrait appeler ça de la chaîne d'extermination et de son évolution. Parce que l'extermination, elle ne s'est pas faite en un jour. Elle a évolué, y compris les méthodes d'extermination ont évolué. Donc au début, on a commencé à tuer les Juifs par balles. Ensuite, on a commencé à utiliser des camions dans lesquels il y avait des espèces de chambres à gaz dans des camions. Ensuite, on a mis en place des systèmes, donc les chambres à gaz et les crématoires, les fours crématoires. Tout ce système-là a été pensé par le bureau dans lequel Eichmann était le numéro 2 tant qu'Heydrich était vivant. Et lorsqu'Heydrich a été assassiné et par les résistants tchèques, il a pris sa place.
D'accord.
Donc il était à la tête de ce système. Encore une fois, il est nommé à la fin de la guerre, c'est-à-dire dans une période qui est peut-être intéressante, c'est la période de 1944, à l'époque, où les Allemands prennent en charge l'extermination des Juifs de Hongrie. Il faut savoir que jusqu'en 1944, la Hongrie était alliée de l'Allemagne. Et donc, jusqu'en 1944, les Juifs de Hongrie n'avaient pas été déportés ni exterminés. Ils étaient persécutés, certes, mais par le régime hongrois. Mmh. À partir de 1943, il va lui-même en Hongrie, et c'est lui qui va s'occuper directement de la déportation de quelques 800 000 Juifs qui vivaient dans la zone contrôlée par la Hongrie et qui ont été exterminés. Donc, quelque part, il a même été... il a même essayé, en 1944, de négocier avec les responsables de la communauté juive, avec un certain Rudolf Kastner, pour échanger des Juifs contre des camions, parce que la situation de l'armée allemande était en difficulté. Et donc, il a essayé de monnayer, finalement, la libération d'un train où il y avait environ un millier de Juifs qui ont été sauvés, je crois 1680 Juifs environ, qui ont été sauvés en échange de camions. Donc c'est quelqu'un qui était dans les rouages, je dirais, dans la direction de l'extermination des Juifs. Bien entendu, lorsque l'ordre est donné d'achever l'extermination des Juifs, d'aller jusqu'au bout, on est déjà presque à la fin de la guerre, l'ordre de terminer ce travail, entre guillemets, est donné par Himmler en octobre 1944 à Eichmann. Octobre 1944, je rappelle que la France est déjà... libéré. Paris est déjà libéré. Donc la France n'est déjà plus occupée. Il y a même l'Afrique du Nord a été libérée, l'Italie. Donc on est déjà sur la fin de la guerre. Et Eichmann, en octobre 1944, reçoit ordre de Himmler de continuer personnellement l'extermination des Juifs. Et il va le faire avec ce qu'on a appelé les marches de la mort. C'est-à-dire les marches où on déporte de tout les territoires qui étaient reconquis par les Alliés, on déporte les Juifs à pied vers l'Allemagne. Et une grande partie, bien entendu, vont mourir, vont périr dans ces marches qu'on a appelées les marches de la mort. Tout ça, ce système-là, qu'il s'agisse des chambres à gaz, qu'il s'agisse des marches de la mort, qu'il s'agisse de ces assassinats de Juifs par balles, tout ça est mis en œuvre par Eichmann. Mmh. Donc on ne peut pas dire que Eichmann est un sous-fifre, que Eichmann n'a pas eu de responsabilité. Donc ça, je pense que c'est important de comprendre cela.
Absolument.
Michael, on va faire une petite pause musicale et nous revenons juste après. Michael, comment s'est passée cette capture de Eichmann ?
Alors d'abord, il faut voir ce qui s'est passé à la fin de la guerre. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, un certain nombre de nazis, bien évidemment, ont essayé d'échapper à la justice et notamment aux forces américaines, et que la plupart d'entre eux ont été arrêtés à un moment ou un autre, qu'évidemment, ils ont minimisé, ils ont pris d'autres identités, ils ont minimisé leur rôle dans cette affaire. Le seul problème, c'est que la plupart des SS étaient tatoués et qu'ils avaient un numéro. Donc, d'ailleurs, le numéro d'Eichmann était quand même un des premiers. Il avait le numéro 22. Donc, ça veut dire qu'il était un des premiers SS. Hein. Alors, il a été, semble-t-il, arrêté par l'armée américaine, mais il avait un nom d'empreinte qui était Otto Eichmann. Et donc, comme sous-lieutenant, il a été incarcéré pendant quelques semaines dans ce qu'on appelait un stalag.
à Weiden.
Qu'est-ce que c'est un stalag ?
Un stalag, c'est un camp prisonnier, disons, que les Américains arrêtaient un certain nombre de soldats allemands, ex-soldats allemands, ex-SS. La plupart étaient libérés lorsqu'on n'avait pas la preuve exacte de leur rôle. Alors évidemment, on n'avait pas tous les documents à cette époque. Malgré tout, le nom d'Eichmann circulait, puisqu'on voit par exemple dans les travaux du procureur du tribunal de Nuremberg qu'il y a un document signé Eichmann qui parle de l'objectif ultime du parti nazi et l'extermination de la race juive. D'accord. Ce document est signé d'Eichmann. Sauf qu'on n'a à cette époque pas fait le rapprochement entre le Otto Eichmann en question et Eichmann. Et cette conversation, enfin ce texte donc, qui rapportait que déjà 4 millions de juifs avaient été exterminés et qu'il fallait continuer le travail, datait de l'automne 1944, suite, parce que, comme je disais tout à l'heure, aux documents, aux ordres qui avaient été donnés par Himmler. Le nom d'Eichmann est également évoqué dans un autre document qui a servi pour juger un autre criminel nazi qui s'appelait Dieter Wissislesny. Donc le nom d'Eichmann était un nom connu des enquêteurs. Cela dit, il a réussi à s'évader avec l'aide d'anciens nazis. D'accord. De ce camp. Et donc, en février 1946, il va quitter en fait, ce camp en s'évadant. Mais il reste en Allemagne encore quelques années, sous un autre nom qui était Otto Heininger. Et il va travailler comme bûcheron. Dans une entreprise dirigée par un ancien nazi qui, évidemment, n'ignorait pas sa véritable identité. Il est une nouvelle fois arrêté, et puis il va réussir une nouvelle fois à s'échapper, et on arrête ses parents en 1947 pour essayer de retrouver sa trace, et finalement, il réussit à quitter le territoire allemand en 1948 grâce à des filières d'anciens nazis qui exfiltrait les anciens nazis vers l'Amérique du Sud. Et donc, il va se retrouver dans cette fameuse filière qui a également exfiltré d'autres anciens nazis, comme Mengele, comme Müller et d'autres. Il arrive donc en Argentine et il prendra une nouvelle identité qui est celle de Ricardo Clement. Okay. Voilà. Cela dit, en 1950, il va traverser une nouvelle fois. Il revient en Allemagne et puis il revient finalement...
Il est assez confiant, voilà. Ce monsieur, quand même.
Oui, oui. Et donc, il finit par échapper à toutes les recherches en passant par l'Italie et à arriver avec une autorisation officielle sous le nom de Ricardo Clement en Argentine. Alors, qui l'a aidé ? On sait qu'il y a tout un tas de gens qui sont liés à son évasion, tout un réseau de filières d'anciens nazis.
Est-ce que tu peux nous parler vraiment rapidement de ce réseau d'anciens nazis ?
Ah ben, ce réseau d'anciens nazis avait été déjà constitué avant la fin de la guerre, puisque un certain nombre de nazis avaient déjà prévu que la guerre allait mal se terminer pour eux, et donc ils avaient mis en place des filières avec l'aide de certains milieux religieux, notamment un moine franciscain qui s'appelait Eduardo Domoter, qui lui avait des relations en Amérique du Sud et qui avait mis en place ce réseau qui passait soit par l'Italie, et donc il prenait un bateau à partir de l'Italie qui les amenait directement en Argentine. D'autres ont été exfiltrés à partir de la Turquie, d'Istanbul, et certains sont allés dans les pays arabes. D'accord. Et on sait qu'un certain nombre d'anciens nazis ont aidé les pays arabes, notamment le FLN en Algérie. Et puis, d'ailleurs, c'est raconté dans un excellent livre de Boualem Sansal qui s'appelle « Le village de l'Allemand ».
D'accord.
Et puis en Syrie, bien évidemment, et en Égypte, on a la trace d'anciens, de conseillers militaires qui ont aidé les régimes arabes. Alors évidemment, tout ça, on l'a un petit peu oublié, mais à plusieurs reprises, on a essayé de capturer et de demander l'extradition de ces personnes. Alors, lorsqu'il arrive à Eichmann en 1950, en fait, à Buenos Aires, et qu'il s'y installe, il va commencer à travailler et se rendre dans une petite ville qui s'appelle Tucumán, qui se trouve un peu plus dans l'intérieur des terres. Et il fera venir en 1952 sa femme et ses deux fils grâce à cette fameuse organisation qui exfiltrait les anciens nazis. Il a eu ensuite un autre fils qui est né en 1953. Et donc, il a commencé à travailler à Buenos Aires. Dans un quartier qui s'appelle le quartier d'Olivos. Alors, on dit qu'à certaines, à plusieurs reprises, il a rencontré Mengele, selon les informations qu'on a eues. Et dès 1956, il se préparait, d'après ce qu'il dit dans ses mémoires, hein, il se préparait éventuellement à être jugé en Allemagne s'il était capturé. Et donc, il préparait déjà son dossier de défense. Il a ensuite travaillé dans une usine de voitures, chez Mercedes, évidemment, dans le quartier de San Fernando. Et il a même donné, moment, une interview dans un journal, évidemment sous son nom de Ricardo Clemente. Cela dit, à partir de 1900, à la fin des années 50, tout au long des années 50, un certain nombre d'informations étaient parvenues au Mossad, qui n'ignorait pas la présence de tous ces anciens nazis dans l'Amérique du Sud, dans plusieurs pays, pas seulement en Argentine, mais également en Bolivie et dans d'autres pays, en Paraguay, même certaines fermes au Chili, par exemple, où il y avait d'anciens nazis qui étaient complètement isolés et protégés quelque part par le régime, par les régimes sur place.
C'est ce que j'allais te demander. Pourquoi l'Amérique du Sud ?
Bon, parce qu'il y avait une longue histoire des communautés allemandes qui, déjà avant la guerre, beaucoup d'Allemands vivaient en Amérique du Sud, étaient et vivaient en exil. Et donc, ces communautés allemandes avaient infiltré beaucoup les milieux du pouvoir, avaient aidé un certain nombre de ces régimes, notamment sur des tas de questions de développement industriel ou de problèmes économiques ou de problèmes militaires. Et donc, on voyait que beaucoup de gens d'origine allemande étaient arrivés à des positions très élevées. Certains, parfois, ont été ministres, encore une fois, avec leur nouvelle nationalité, mais ne cachaient pas, ils portaient des noms allemands, et ils étaient d'origine allemande. Alors, ceux qui étaient partis avant la guerre, évidemment, n'étaient pas recherchés, mais évidemment, ces filières ont aidé les anciens nazis à retrouver une autre vie après la guerre. Alors, lorsque l'État d'Israël obtient des informations à partir de 1953, on sait déjà que Eichmann, Mengele, Müller et d'autres sont en Amérique du Sud, on les a plus ou moins localisés, et ce n'est que quelques années plus tard que Ben-Gurion va décider de cette fameuse opération qu'au début on a appelée l'opération Attila, et qui a pour but de faire ce que Ben-Gurion a appelé le Nuremberg du peuple juif. Alors, l'idée de Ben-Gurion, il faut bien la comprendre, et il ne faut pas non plus la trahir. L'image qu'avaient les jeunes Israéliens, c'était que la Shoah, c'était finalement des Juifs qui s'étaient laissés conduire à l'abattoir.
Ah oui.
Voilà. On s'était finalement, petit à petit, il y avait une partie des Juifs, très minoritaire, qui s'étaient défendus, qui s'étaient, voilà, le ghetto de Varsovie, les révoltes dans certains camps, mais finalement, c'était très minoritaire. L'immense majorité des Juifs ne s'étaient pas défendus, étaient allés comme des moutons à l'abattoir. Et il y avait une espèce de honte, finalement, de ces Juifs. C'était la façon dont on les regardait, dont les jeunes Israéliens, fiers, qui eux-mêmes étaient des soldats, regardaient ces anciens déportés. Et on a voulu, quelque part, et c'était finalement en contradiction avec l'image de l'éthos, je dirais, nouveau d'Israël. Et ce qu'a voulu faire Ben-Gurion, c'était retrouver une forme d'unité nationale, c'est-à-dire remettre ces gens-là dans le peuple d'Israël et leur donner leur véritable place, et que les jeunes comprennent ce qui s'était passé, et que c'était pas simplement des boutons qui allaient à l'abattoir, mais qu'il fallait expliquer comment ça s'était passé, comment tout ce processus d'extermination avait été mis en place. Alors, une fois... passe sur Bon, il y a eu énormément de romans et d'aventures, sur la façon dont il a été enlevé et ensuite gardé dans une planque à Buenos Aires, et finalement il a reconnu qu'il était Eichmann et il a signé son accord d'être jugé en Israël. Bon, ensuite c'est un peu rocambolesque la façon dont on l'a ramené en Israël.
Pourquoi ?
Endormi, avec l'aide de évidemment ça pouvait créer une situation d'incident diplomatique avec l'Argentine, avec laquelle Israël avait de bonnes relations diplomatiques. Il s'agit quand même de l'enlèvement, d'un kidnapping. Finalement, tout ça On l'a habillé avec un uniforme d'El Al. Il est passé comme un, quand on l'a envoyé en Israël, comme un steward qui était un petit peu sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Donc, ils ont dit d'un petit peu malade, etc. On l'a été placé, on l'a fait passer pour malade, quoi, sous sédatif. Et puis, tous les membres du commando étaient habillés, en fait, en steward et en hôtesse de l'air. Ils ont dit voilà, qu'ils étaient tous un petit peu sous, un petit peu ivres, pour pouvoir le ramener en Israël. Bon, alors tout ça, c'est un petit peu rocambolesque. Évidemment, il y a eu toute une campagne antisémite, même en Argentine, parce qu'on dit comment Israël se permet de venir sur notre territoire souverain enlever des gens au lieu de demander une extradition. Mais Israël savait très bien qu'en demandant l'extradition, il n'aurait obtenu et que dans le meilleur des cas, disons, Eichmann aurait été envoyé en Allemagne où il aurait eu un procès qui aurait été évidemment de nature tout à fait différente. Alors bon, après, en Israël, il y a eu toute une guerre des chefs pour savoir qui avait finalement mené cette opération. Bon, en gros, disons que c'est le Mossad et que l'opération s'est déroulée. Alors, à partir du moment où Eichmann a été arrêté, il a fallu mettre en place ce procès. Et là, je crois que c'est la question vraiment de comment Israël a pensé, je dirais. Comment Israël... Alors, on peut dire que c'est instrumentalisé, mais c'est instrumentalisé pour, je dirais, de bonnes raisons. Mmh. Il fallait faire ce procès. Il fallait que ce procès soit sur une scène internationale. Il fallait que ce procès soit médiatisé, comme on dirait aujourd'hui, et que l'ensemble de ce procès serve à faire ce que Ben Gurion a appelé l'avènement du témoin. Jusqu'à présent, par exemple, très peu dans le procès de Nuremberg, il y a eu très peu de témoignages. Là, il s'agissait de faire témoigner les personnes lambda, comme on dit, qui avaient été victimes de la Shoah. On ne faisait pas témoigner les chefs, on allait faire témoigner les propres victimes. Alors, effectivement, on peut dire pourquoi on a choisi tel ou tel, mais on a essayé de constituer un ensemble de témoignages, plus d'une 160, une soixantaine de témoignages, sur plusieurs mois, pour que chaque témoignage témoigne d'un autre aspect de la Shoah. Alors, les chefs d'accusation, on peut dire qu'ils sont de quatre catégories. Le premier, c'est crime contre l'humanité, crime contre le peuple juif, crime de guerre et participation à une organisation hostile, c'est-à-dire acte de guerre. Alors, évidemment, les crimes de guerre, crimes contre l'humanité, c'est d'ordre international, évidemment. Mais on a rajouté les crimes contre le peuple juif, qui, en se référant à une loi qui avait été votée en Israël en 1950. Et donc, après la création de l'État d'Israël, c'est cette loi, au fond, qui a dérangé beaucoup de gens. Pourquoi un crime contre le peuple juif serait différent d'un autre crime ? C'est justement parce qu'il fallait montrer que, dans la Shoah, il y avait une spécificité. Il y avait une spécificité de l'extermination des Juifs. Ce n'était pas un génocide. Bien évidemment, tous les génocides sont abominables. Mais il y avait là la volonté de détruire un peuple et qui était non pas n'importe quel peuple, mais le peuple juif. Et donc l'État d'Israël, en tant qu'État du peuple juif, avait donc la responsabilité de juger les gens qui s'attaquent au peuple juif en tant que peuple et qui veulent le détruire ou l'exterminer.
Mais pourquoi elle a été contestée, cette loi ? Je comprends pas.
Elle a été contestée par les ennemis d'Israël, qui considéraient que finalement, détruire un peuple, c'était crime contre l'humanité ou crime de guerre, mais qu'il n'y avait pas de spécificité, en fait, d'un crime contre le peuple juif. Et c'est tout le débat, aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, c'est encore contester cette différence.
Sauf que la Shoah, c'est l'extermination des Juifs.
Bien sûr. Mais des gens vous diront aujourd'hui que finalement, il y a eu la Shoah au Rwanda, il y a eu la Shoah au Cambodge, il y a eu la Shoah partout. Et donc, on va même vous dire que Israël, peut-être, demain, va faire la Shoah. Voilà. C'est justement le retournement de cet argument contre le peuple juif. Ce procès en tant que tel a attiré énormément de journalistes. Il faut savoir qu'en Israël, il n'y avait pas de télévision à l'époque. Mais on a décidé de filmer ce procès. On a construit cette fameuse cage de verre dans laquelle on a mis Eichmann pour qu'il soit protégé. Et c'est la deuxième fois au monde, après le procès de Nuremberg, où un procès a été entièrement filmé du début à la fin. Alors, au départ, évidemment, Ben-Gurion aurait préféré que ce ne soit pas filmé. Il a fini par accepter. On lui a expliqué qu'il y avait malgré tout un intérêt. Et il y a eu, tout au long de ce procès, évidemment, beaucoup plus de journalistes, d'ailleurs, que lors du procès de Nuremberg. Deux fois plus de journalistes qui ont participé, assisté. Oui, du monde entier. Ça a été un événement, évidemment, avec tout ce qui a été mis en place. On a recruté une équipe spéciale de gardiens de prison. Une vingtaine de personnes ont été spécialement recrutées pour garder Eichmann, pour ne pas qu'il attente à sa vie, pour ne pas qu'il soit éventuellement empoisonné par des gens qui auraient voulu ou qu'il soit assassiné par une vengeance quelconque de quelqu'un. Donc, les gardiens qui ont été recrutés avaient été sélectionnés justement pour le fait qu'ils n'avaient pas de relation directe avec la question. La nourriture était contrôlée, etc. Alors, bien évidemment, ce procès a duré quelques mois. Il a été condamné le 11 décembre 1961. Il a fait appel, bien évidemment. L'appel a été rejeté en mars 1962. Il a présenté un recours en grâce et a été pendu le 31 mai 1962 dans la prison de Ramla. Et on a d'ailleurs demandé à un geôlier qui était d'origine yéménite, donc quelqu'un qui n'avait pas eu de famille exterminée, de procéder à son exécution. Ensuite, bien évidemment, son corps a été incinéré et dispersé dans la mer pour qu'il n'y ait pas justement d'endroit et pour ne pas que ses cendres même souillent la terre d'Israël. Alors évidemment, on peut revenir sur la controverse du procès Eichmann. Et je pense qu'on le fera après une petite pause.
Absolument, Michael. À tout de suite.
חלומות גדולים, רגעים דלים, זה לא אומר כלום בשבילי. ממש כמו לשבת, מאסר עולם, על רצח שלא קרה. מעולם לא מוצא מילים, כוכב סרטים מלמים, הלוואי והייתי יכול לנהוג קצת אחרת, משטרת המחשבות חייבת לעשות חיפוש בראשי. אבא גנרל עומד על המגדל רואה את הכל מסביב לא מלמטה נחשים מטפסים אמא סוגרת את כל התריסים חלומות גדולים רגעים דלים זה לא אומר כלום בשבילי ממש כמו לשבת מאסר עולם על רצח שלא קרה מה שלא מסתדר חלומות גדולים רגעים דלים חלומות גדולים רגעים דלים זה לא אומר לי כלום
כל השבוע
יודעת את זה. חלומות גדולים, רגעים דלים, זה לא אומר כלום בשבילי. ממש כמו לשבת, לא מוצא מילים, מוכב סרטים מילים, הלוואי והייתי יכול לנהוג קצת אחרת. חלומות גדולים, רגעים דלים, או
Michael, nous allons continuer avec ce procès Eichmann. Il y a eu pas mal de controverses par rapport à ce procès, je crois.
Bien sûr, la question du procès Eichmann, c'est la question de, évidemment, de la responsabilité d'Eichmann dans la solution finale, dans l'extermination des Juifs. C'est évident qu'il n'a pas été le seul responsable et que personne n'a dit qu'il a été le seul responsable. Il est simplement le seul criminel nazi de cette envergure qui a réussi à être capturé et jugé en Israël. Si on avait capturé Mengele, il y aurait eu le même type de procès. Et malheureusement, les autres nations n'ont pas accompli de tels procès. Il y a eu, on a mis du temps pour voir ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme la France, pour les procès Barbie, les procès Papon, évidemment, pas comparables. Mais on a compris, je dirais, l'aspect à la fois pédagogique et historique de ces procès. Non seulement parce que c'est pas parce qu'on a trouvé le plus gros poisson, mais c'est parce que ces procès permettent à la vérité d'être dite, d'être révélée, d'être exprimée, et que c'est important à la fois pour la mémoire des victimes, mais aussi pour la jeunesse. Et je crois que, par exemple, dans le témoignage d'un député israélien, que tu vas nous lire, il y a une explication assez claire de, je dirais, des objectifs d'un tel procès.
Donc c'est un témoignage de Ivo Goldberg, un député de la Knesset. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père, j'ai perdu mes sœurs, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu des tantes, j'ai perdu des oncles, j'ai perdu des amis il y a 20 ans. J'ai survécu au camp avec la honte de m'en être sorti et pas eux. De ma famille et de mes amis, il ne me reste rien à part leurs souvenirs. Eichmann est mort, et alors ? Certes, cela ne fera pas revenir ma famille, cela ne fera pas non plus revenir mes amis, mais au moins il a été jugé. Qu'il ait été pendu m'est indifférent, qu'il soit mort m'est égal. L'homme et le criminel ont été jugés et condamnés. J'étais dans le camp de Bergen-Belsen, quand ce petit homme boiteux, rachitique et engoncé dans son uniforme avait inspecté le camp. Comme nous avions été avertis de sa visite, nous étions tous dehors à vouloir voir qui était ce Eichmann qui avait tant de haine contre nous. Je le vis marcher fièrement, toisant les vieillards faméliques et regarder avec mépris les adolescents au corps décharné. Ce jour-là, j'étais à mille lieues de me douter que je reverrais cet homme moins de 20 ans plus tard dans une salle d'audience pour être jugé. De terrible bourreau actif et passif, il est devenu un simple citoyen banal, pour reprendre l'expression d'Anna Arendt. Eichmann est mort, mais le souvenir de nos frères de persécution ne doit pas l'être pour autant. Apprenons aux jeunes ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus jamais d'autres Eichmann.
Oui, donc je crois que c'était le but de ce procès. Alors évidemment, il y a une controverse qui est née principalement suite à la publication du livre de Hannah Arendt qui s'appelait « Eichmann à Jérusalem », qui est traduit sous ce titre-là. Hannah Arendt, évidemment, penseur ou femme philosophe centrale, important, qui avait déjà énormément réfléchi sur dans son livre qui s'appelle « Les origines du totalitarisme », c'est un livre important qui explique justement le système, comment se met en place un système totalitaire. Et dans sa vision du système totalitaire, il s'agit en fait d'un système avec des rouages. Et donc, Eichmann, pour elle, à la fois c'était un personnage tout à fait quelconque, mais aussi, ça n'était qu'un rouage du système, et qu'au fond, il n'était ni plus antisémite, ni plus intelligent que les autres, ni plus acharné que les autres contre les Juifs, mais tout simplement, il faisait carrière, et donc il était un maillon de ce système, de cette chaîne. Et au fond, elle décrit dans ce qu'elle désigne comme la banalité du mal, la possibilité que n'importe quelle personne qui serait dans ce rouage d'un tel système pourrait devenir un petit Eichmann. Alors, thèse évidemment qu'elle fonde sur l'aspect, je dirais, non seulement quelconque, mais le fait que dans son procès,
n'a assumé aucune culpabilité. Il y a quelqu'un qui apparaissait comme totalement indifférent, qui avait sans aucune personnalité, voilà, dénué de personnalité. Malgré tout, ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire toute la carrière et toutes les responsabilités, je dirais, tout l'engagement de Eichmann dans l'extermination, dans le processus d'extermination, contredit cette thèse de Hannah Arendt. Mais la thèse de Hannah Arendt, elle commence avant, elle ne commence pas au procès Eichmann, elle commence dans la façon dont elle décrit le système totalitaire. Et évidemment, pour elle, il s'agit d'un système qui soumet les gens à une obéissance, à une discipline, à ce qu'on dirait une subordination volontaire. Et donc, à partir de là, on ne peut pas échapper au système. Donc, elle dit, finalement, Eichmann n'aurait pas pu échapper au système. Et on a jugé quelqu'un de mineur, d'une personnalité tout à fait banale.
Et après le procès ou pendant le procès, est-ce qu'elle s'est dédiée de ces...
Non, absolument pas. Non seulement ça. Alors, encore une fois, Hannah Arendt, personnalité malgré tout, avec beaucoup de contradictions, parce que n'oublions pas qu'elle a été la maîtresse d'Heidegger, et que Heidegger était inscrit au parti nazi, et qu'il s'en est jamais caché, et qu'elle ne l'a pas ignoré. Donc, bien évidemment qu'il y a, je dirais, une dimension les crimes dans la Shoah, il y a une dimension qui dépasse le peuple juif, il y a une dimension universelle, et bien évidemment. Il ne s'agit pas de dire que les crimes contre la Shoah sont que contre le peuple juif, c'est aussi des crimes contre l'humanité. D'ailleurs, c'est ce que disaient les chefs d'accusation contre Eichmann. Mais pour elle, finalement, l'extermination et le totalitarisme fonctionne grâce à des petits bureaucrates, des petits soldats, des petits fonctionnaires. Et donc c'est pour elle une analyse qui est intéressante sur le fait qu'à partir du moment où une personne se trouve dans un système totalitaire, se crée une pathologie qui l'empêche de penser finalement et qui met les hommes dans une sorte d'incapacité de réfléchir, de penser par eux-mêmes et d'être autonome.
Mais ce n'était pas le cas d'Eichmann.
Et encore une fois, les jeunes perdent, disons, leur valeur de pitié, de miséricorde, de regard sur l'autre, de respect d'autrui. Pour moi, ça n'est pas du tout le cas d'Eichmann. Et en tout cas, ça n'est pas le but du procès d'Eichmann. Même si Eichmann, sa personnalité, ne nous intéresse absolument pas, Eichmann a été jugé en tant que... c'est le processus d'extermination du peuple juif mis en œuvre par l'État nazi à travers un responsable, qui est celui qu'on a arrêté. Bon, un autre a été assassiné, d'autres avaient déjà été jugés. Si on avait pu en arrêter d'autres, on l'aurait fait. Et donc, il y a bien évidemment une interrogation qu'on peut aller dans cette interrogation qui peut commettre des crimes. On connaît, par exemple, les expériences de ce psychologue américain Milgram, qui dit que des personnes sont tout à fait mises dans certaines conditions, avec un certain conditionnement, sont capables de donner des ordres, ou en tout cas d'accepter que l'on torture d'autres personnes sans réagir à partir du moment où ils considèrent qu'il y a une autorité qui leur ordonne de faire ça. On connaît ces expériences, qui sont des expériences intéressantes sur le plan de la psychologie, mais il y a quand même dans le cas Eichmann quelque chose qui concerne le peuple juif et qui était important, parce qu'il ne faisait aucun doute pour Ben-Gourion qu'il fallait que les jeunes, en Israël aussi, et aussi dans le monde, et le peuple juif sache que, premièrement, il y avait eu un processus d'extermination qui s'était déroulé en Europe, pas n'importe où, qui avait commencé en Europe, d'une certaine culture, c'est-à-dire avec un certain terreau, ça c'est pas passé n'importe où, ça s'est forgé autour d'une vision de ce qu'on appelle l'antisémitisme, à la fois classique et puis l'antisémitisme moderne, que les outils qui avaient été donnés par la technologie industrielle permettaient de mettre en œuvre une extermination de masse. Et puis, il y a aussi un autre élément, mais qui est extrêmement important quand on pense à ce qu'a été le processus de la Shoah, c'est qu'il ne faut plus que ça arrive. Et donc, bien évidemment, les gens ont dit « Ben-Gourion a instrumentalisé la Shoah pour renforcer son pouvoir, pour renforcer l'image d'un Israël fort et justifier, au fond, l'existence d'un État d'Israël avec une armée, avec peut-être une puissance nucléaire, etc., et pouvoir se défendre ». Oui, plus jamais ça. C'est un des, je dirais, c'est une des,
un des fondements de ce procès Eichmann, c'est ça a pu arriver parce que Israël et les peuples juifs ne pouvaient pas se défendre et qu'en Europe, eh bien, on a laissé faire aussi. Donc il y a quelque part quelque chose qui s'est instauré en Europe qui a permis à un système industriel de mettre en œuvre un tel type de destruction. Donc ce pouvoir de destruction, il ne s'est pas fait à l'égard du peuple juif pour rien. C'est parce que le peuple juif, c'était aussi le peuple élu, et que le peuple allemand, dans la vision du nazisme, c'était aussi un peuple qui voulait se mettre à la place du peuple juif en tant que peuple élu, en tant que race. Et donc, c'est tout justement cette différence entre le racisme, c'est-à-dire une race supérieure, et la notion de peuple juif, qui est plus une conception morale. Tout ça, il faut le comprendre, ça a été évoqué dans les témoignages au cours du procès. Et donc, Ben Gurion n'a pas seulement voulu agir, je dirais, en fonction du peuple israélien, enfin des jeunes, pour que les jeunes comprennent qui vivait à côté d'eux, ce qu'ils avaient vécu, et ce que parfois ils ne voulaient pas voir dans les mêmes familles. Donc il a permis de faire ce qu'on appelle aussi une forme de catharsis, c'est-à-dire une forme de purification des esprits, de ne pas comprendre de façon biaisée cette réalité qui a été, si on peut dire que c'est une réalité, c'est même une surréalité, ce qui a été la réalité des camps. Cette vérité-là, elle était impossible à exprimer par une personne. Moi par exemple, qui ai vécu dans une famille avec un père qui a été déporté, il y avait une impossibilité de raconter. C'est pas possible de raconter ça dans une famille, souvent. C'est trop lourd et on ne veut pas marquer ses enfants. Et donc, on avait besoin d'une scène publique qui permette des témoignages publics qui, parfois, ont été extrêmement violents. Il y a des gens, dans les témoins, qui se sont évanouis pendant le procès, qui n'ont pas pu tenir cette charge émotionnelle. Mais, d'une certaine façon, ça a permis de libérer une parole, de comprendre que les gens qui étaient à côté de ces jeunes héros étaient aussi des héros à leur manière, même s'ils n'avaient pas pris les armes, mais parfois sauver quelqu'un en lui donnant un quignon de pain, c'est aussi une forme d'héroïsme. Donc tout ça a pu être compris grâce à ce procès et aussi grâce au fait que ce procès a été fait publiquement par l'État d'Israël, par l'État du peuple juif et je dirais, devant les nations. Et quand on lit, je dirais, les témoignages du procès, c'est ça qui est important. C'est pas la personnalité de Eichmann. Je dirais, la personnalité d'Eichmann, on s'en fout. Et quelque part, j'ai fait cette émission avec toi, Stéphanie, justement parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du procès Eichmann, tout le monde parle de la personnalité de Eichmann. Mais on s'en fout de la personnalité d'Eichmann. Ce qui est important dans le procès Eichmann, c'est la vérité qui a été exprimée par les témoignages. Et donc, on ne peut pas dire « justice a été faite », ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice dans une affaire comme celle-là. Il n'y a pas de justice, ce n'est pas parce qu'on n'a pas pendu Eichmann et dispersé ses cendres dans la mer pour faire une justice quelconque. On a accompli un acte de témoignage. Et en cela, c'était fondamental. Ça n'est pas la responsabilité qui est en jeu, bien entendu. On a jugé une personne, on n'a pas jugé une personne, on a jugé un système à travers cette personne. Sa responsabilité personnelle, qu'elle soit un peu plus importante ou moins importante, qu'il soit un petit rouage ou un grand rouage, ça n'a pas vraiment d'importance. Et je crois que c'était important de faire cette émission.
Merci beaucoup, Michael. Merci, chers auditeurs de Radio TAF, de nous avoir écoutés. Et je vous dis à très bientôt. Later.